Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
What time is it now? Time is it now?
Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, un rendez-vous consacré, comme vous le savez, depuis quelques jours au débrief de la draft NFL 2024, tirer les principaux enseignements des choix qui ont été réalisés par les différentes franchises, parmi les désormais futurs ex-joueurs universitaires qui rejoignent donc les rangs professionnels. Et aujourd'hui, on va se plonger au cœur de la AFC West pour s'intéresser notamment aux choix des Denver Broncos, des Kansas City Chiefs, des Las Vegas Raiders et des Los Angeles Chargers. Et pour en parler, en ma compagnie, Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut Jean-Mi.
Salut Grégory, salut tout le monde. Allez, dernière ligne droite, on se débriefe la draft et puis après, petite pause.
C'est ça, ça fait plaisir de te retrouver. Après ces nuits passées ensemble, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est totalement assumé.
Oui, c'est ça.
Et donc, en tout cas, on va en profiter pour rappeler un petit peu les critères de notation. On dira, on rappelle pour analyser un petit peu les différents choix des uns et des autres. On a donc 6 appréciations sur notre tableau, entre guillemets, hein, dans notre système de notation. Donc, les côtés un peu positifs, à savoir des félicitations, ça c'est si tout est parfait, des compliments ou des encouragements dans une moindre mesure, si c'est beaucoup plus discutable, on a notamment les mentions passables, mauvais ou tout simplement blâme, carrément, voilà, limite il n'aurait pas dû venir pour faire ce genre de choix. Je ne sais pas si ça entrera dans ce cas de figure aujourd'hui, Jean-Mi, on va le savoir tout de suite, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet avec notamment les Denver Broncos, qui étaient très attendus au sein de cette draft, parce qu'ils s'étaient mis beaucoup, beaucoup de pression à l'issue de la free agency, notamment par rapport au fait qu'il leur manquait un quarterback, qui était au début de la draft, donc et Zach Wilson et Jared Stidham, si on se fie à la logique un peu expérience, hein, et sans vouloir faire injure à Ben DiNucci. Donc un petit récapitulatif des choix qui ont été faits, Jean-Mi. On avait donc au premier tour Bonix, quarterback d'Oregon, qui était donc le 6e quarterback dans le top 12, hein, ce qui était quand même une mini-sensation en soi, hein, c'est clairement pas arrivé tous les ans à la NFL. Il a fallu attendre ensuite le 3e tour pour avoir Jonah Ellis, le edge rusher de Utah. 4e tour, Troy Franklin, receveur d'Oregon. On avait ensuite au 5e tour, Chris Abrams-Drain, cornerback de Missouri, et Henrik Estimé, running back de Notre-Dame. Et puis enfin, 2 derniers choix au 7e tour, avec Devon Velley, receveur de Utah, ainsi que Nick Garciulo, le centre de South Carolina. Quel est ton ressenti global, Jean-Mi? Tu vas nous dire un petit peu, j'imagine, ton ressenti sur Bonix, mais justement sur ces sélections globales, sachant que Denver n'était pas très aidé au niveau des picks. Ils en ont d'ailleurs échangé beaucoup, beaucoup par la suite au sein même de la draft.
Oui, écoute, moi je trouve qu'ils ont fait plutôt une bonne draft parce qu'effectivement, ils n'avaient pas énormément de matériel. Pour ce qui est du premier choix, il leur fallait un quarterback, ils étaient un petit peu loin, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis ensuite, ouais, il leur manquait, ils n'avaient plus le second tour, c'était l'échange de Russell Wilson, etc. Donc, et dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont plutôt bien débrouillés.
Moi, je suis un peu mitigé sur cette draft-là. Alors, après, c'est toujours la même chose, c'est savoir concrètement ce qu'ils étaient en capacité de faire. Je ne vais pas dire que c'est dommage d'envoyer un 12e choix sur Bonix parce que le scénario faisait qu'ils étaient obligés de l'envoyer. Je pense qu'un trade down, ça les aurait condamnés, surtout que tu avais Las Vegas, par exemple, juste derrière, qui potentiellement, en étant intéressé avec Bonix, pouvait éventuellement les supplanter. Après, ce qui est compliqué avec cette équipe de Denver, c'est que je n'ai pas l'impression qu'elle a énormément de playmakers, mais je n'ai pas forcément l'impression qu'elle soit déplumée sur énormément de postes. Donc, j'ai l'impression qu'on a un peu ajouté de la profondeur, de la concurrence, mais en soi, sur les différents critères, on va dire, d'appréciation que je peux avoir sur les différentes équipes, Je ne ressors pas de la draft en me disant Denver, par rapport notamment à des concurrents de la division, a vraiment marqué énormément de points. Parce que, y a toujours des gros points d'interrogation qui se poseront sur des postes clés. Après, il y a énormément de joueurs que j'adore. Arriver à réussir au quatrième, arriver à récupérer au quatrième ou cinquième tour Troy Franklin, Chris Abrahamsrein et Rodrick Estimé notamment, je trouve que c'est des bons ajouts, notamment Franklin et Abrahamsrein pour la profondeur et la fameuse concurrence que j'évoquais tout à l'heure. John Ellis, dans son profil, c'est sans doute ce dont avait besoin Denver, ça on l'avait dit lors du live, notamment des deuxième et troisième tours. Quelle serait, du coup, Jean-Mi, ton appréciation globale vis-à-vis des Denver Broncos? Tu devais mettre une notation de ton côté.
Oh, je pense que c'est quand même des encouragements là. Parce que tu vois, par exemple, Troy Franklin, s'il descend au quatrième tour, alors déjà, c'est parce qu'il y a une grosse cuvée de receveurs, mais c'est aussi parce qu'il avait des problèmes de drop, etc. Mais bon, un, il a quand même de la vitesse, et deux, surtout, c'est très intéressant avec Bonix, puisqu'ils se connaissent, il y a déjà des automatismes. Alors je veux bien, en NFL, ce sera un système offensif différent, un puis un contexte différent, mais les deux quand même se connaissent. Un, il sait comment l'autre lance ses balles, l'autre, il sait comment l'autre se démarre, se déplace, etc. Donc déjà, je trouve que c'est très intéressant. Et pourquoi j'ai dit en intro qu'ils étaient bien débrouillés, mais parce que voilà, comme tu l'as dit, leurs cinq premiers choix, ce sont cinq joueurs qui ont contribué au plus haut niveau universitaire. Ils ont tous été bons en NCAA, voilà, ils ont tous montré sur le terrain quelque chose d'important. Alors, c'est pas un gage, bien sûr, et puis même à l'inverse, parfois on a des joueurs qui font pas énormément à l'université, mais leur qualité athlétique fait qu'en NFL ça marche. Mais là, quand même, tu vois, c'est que des gros profils. Et du coup, ben, avec peu de choix, tu ramènes cinq joueurs, cinq gros profils. Après, oui, il y a deux septième tours aussi, je les oublie pas, mais bon, c'est surtout les cinq premiers choix. Et du coup, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, on pourra toujours discuter. Bonix, est-ce que vraiment c'est un quarterback suffisant pour aller loin en NFL, etc. On verra. Mais d'ores et déjà, c'est au minima, je pense, un bon game manager et c'est déjà mieux que ce qu'ils avaient. Donc, du coup, ben, allez, allez.
Tout à fait. Et tu fais bien insister sur cette connexion et ces automatismes qu'il y a déjà avec Troy Franklin. On ne sait pas de quoi son avenir sera fait également, mais il y a le centre d'Oregon également, Alex Forsythe, qui avait été drafté l'année dernière au septième tour, je crois, par les Broncos. Donc globalement, voilà, on parle souvent de dans quel contexte, dans quelles circonstances tu mets ton quarterback rookie. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que Denver lance Bonix avec zéro réflexe. Enfin, on va dire totalement dans l'inconnu par rapport à son futur environnement NFL. Donc là-dessus, je te rejoins. Je te suivrai pour les encouragements parce que pour moi, en effet, on est plus sur, on est quand même sur une meilleure équipe de Denver après la draft qu'avant. Mais voilà, c'est sûr que ça appelle à confirmation cette année parce que faudra voir si Denver peut faire mieux que top 5 ou top 10 cette saison. J'anticipe un peu, on n'en est pas encore là. Mais voilà, c'est juste ce qui m'inquiète un petit peu de mon côté. On enchaîne du coup, Jean-Mi, avec les Kansas City Chiefs, forcément très attendus également, hein, le double champion en titre, qui ont été très actifs notamment sur les échanges, hein, puisqu'on est monté à la fin du premier tour pour aller chercher Xavier Worthy, receveur de Texas. On est monté à la fin du deuxième tour pour aller chercher Kingsley Suamataya, tackle de BYU. Et puis un petit peu plus tard dans la draft, on a pris Jared Wiley, tight end de TCU, et Jaden Hicks, safety de Washington State au quatrième tour. Au cinquième tour, Hunter Nourzad, le centre de Penn State. Au sixième tour, Kamal Hayden, cornerback de Tennessee. Et au septième, CJ Hanson, garde d'Holy Cross. Un des principaux enseignements, j'anticipe peut-être un peu Jean-Mi, tu me diras plus globalement ce que tu en penses. Il y avait quand même des gros besoins sur la ligne offensive. On ne peut pas dire que ça a été ignoré de la part de Bredvitch et des Chiefs.
Non, et c'est plutôt même une bonne affaire de prendre Kingsley Suamataya aussi tard dans le second tour. Voilà, on savait qu'il est encore en développement, un peu brut techniquement. On pensait qu'il irait pas au premier tour, même s'il y avait une toute petite chance. Mais on se disait, c'est un choix du deuxième tour. Et là, le récupérer tout en bas du deuxième tour, ben, oui, c'est plutôt une bonne affaire. Surtout que, alors je vais pas dire qu'il n'y a pas urgence, parce qu'il n'y a pas non plus des joueurs hyper solides. Taylor est quand même moyen, et puis Wanyamaurice, voilà, il en développement. Mais voilà, a priori, tu as déjà tes deux titulaires, donc tu peux amener Suamataya et puis tu vois un petit peu comment ça se passe lors du camp, puis lors de la saison. Et je pense que pour l'avenir, ils ont trouvé leur tackle offensif, donc c'est une bonne affaire.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas énormément de choses qui, moi, me dérangent. Il y a des besoins qui ont été en effet considérés. Oui, la principale question que moi je me pose, c'est sur les deux premiers tours. En effet, combien de temps mettra Suamataya à se développer et du coup savoir qui sera vraiment le tackle gauche pour protéger Patrick Mahomes? Et savoir si ce n'était pas non plus un luxe d'aller chercher un receveur à la fin du premier tour, sachant que tu as une classe assez profonde et surtout un quarterback pour distribuer. Voilà. Est-ce que Warvis c'était vraiment le profil idoine, même si on se doute que sa vitesse sera pas trop pour rendre cette attaque extrêmement explosive, mais c'est la seule chose éventuellement qui tempère un petit peu mes ardeurs à ce sujet. J'y suis allé avec un timide encouragement de mon côté. Est-ce que tu veux mettre plus ou est-ce qu'encouragement ça te convient?
C'était quoi déjà?
Compliment,
Félicitations,
encouragement.
compliment, encore. Non, encouragement, encouragement, parce que c'est pas non plus mauvais, mais c'est pas non plus excellent. Parce que forcément, moi aussi, tu vois, Xavier Worthy, c'était loin d'être mon receveur préféré. J'ai été un peu surpris. Mais c'est un petit peu comme on disait avec Denver, c'est-à-dire que ben, tu prends Troy Franklin, c'était pas le meilleur, mais il y a des automatismes avec Knicks. Du coup, ça fait sens à Denver. Et ben là, Worthy, vraiment, moi je trouve qu'il y avait bien d'autres receveurs meilleurs que lui, mais sauf que à Kansas City, ça fait sens parce que avec sa vitesse, avec le bras de Mahomes, alors je suis pas en train de dire ça va être Tyreek Hill parce que Tyreek Hill c'est le top, mais voilà, on se rappelle de la connexion Mahomes-Hill et donc du coup, ben voilà, du coup ça fait sens. Tu m'aurais mis un Xavier Worthy dans une autre équipe, j'aurais dit ah, pas au premier tour, tu vois, mais là aux Chiefs, bon écoute, pourquoi pas. Et puis ajouter un Jared Wiley qui est quand même très bon en réception, un Jaden Hicks qui est plutôt un bon safety et ils avaient besoin de profondeur à ce poste, ben oui, ça vaut au moins encouragement.
On est d'accord là-dessus. On passe du coup aux Las Vegas Raiders. Jean-Mi, où il y a des choses à dire. Avec au premier tour donc la sélection de Brock Bowers, le tight end de Georgia. C'était une mini sensation d'un point de vue besoin, mais en tout cas, ça a été une des surprises du premier tour. Au deuxième tour, on avait donc Jackson Powers Johnson, le centre d'Oregon, qu'on attendait peut-être un petit peu plus haut, mais sur lequel Las Vegas a eu l'opportunité de tomber au deuxième. Au troisième tour, je sais que ça, c'est un de tes choix préférés, Delmar Glaze, le tackle de Maryland également sélectionné. On a ensuite Decameron Richardson, le cornerback de Mississippi State, au quatrième. Tommy Eichenberg, linebacker d'Ohio State au cinquième. On a Dylan Lobby, le running back de New Hampshire au sixième. Et puis deux joueurs également au septième tour avec Trey Taylor, le safety d'Air Force, et MJ Devonshire, cornerback de Pittsburgh. Qu'est-ce que tu penses globalement de cette draft, mon cher Jean-Mi?
Bah, ils m'ont surpris, ils m'ont surpris, notamment les deux premiers choix, ils m'ont vraiment surpris parce que j'aime les deux joueurs à chaque fois, mais à chaque fois, je voyais pas vraiment le besoin urgent parce que, ben, Brock Bowers, oui, bien sûr, tu peux jouer avec deux Titans, mais bon, l'année dernière, tu as déjà investi un deuxième tour sur Michael Mayer. Alors, ok, c'était pas le même manager l'année dernière et cette année, donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Et puis, oui, les deux peuvent être complémentaires, d'accord, allez, je veux bien. Même si j'aurais peut-être préféré un tackle offensif ou un cornerback. Le deuxième, c'est pareil, Jackson Power Johnson, il peut jouer guard, il va sans doute jouer guard d'ailleurs avec les Raiders, mais je trouve qu'il était meilleur en tant que centre. Et donc du coup, j'ai pas trop compris. Après, oui, c'est un bon joueur. Donc c'est plus de la surprise, tu vois, notamment sur les deux premiers choix. Et puis par rapport aussi aux besoins, aux positions, alors elles ont été adressées plus tard, mais du coup avec des joueurs plus faibles que ce que j'aurais aimé. Donc, surpris, pas déçu, parce que les deux premiers choix sont très bons, mais après, ouais, voilà, je suis un peu mitigé.
Alors, moi, forcément, le point de vue que j'ai par rapport à ça, c'est surtout de me dire aussi, est-ce que c'est des titulaires à court ou à moyen long terme? Parce que forcément, ça fait varier un petit peu la balance. J'aurais tendance à donner une meilleure appréciation à une équipe dont les rookies vont pouvoir être performants dès cette année. Mais c'est pas forcément pour ça que je vais être dur si je considère que des joueurs vont être titulaires après par la suite. Powers Johnson, par exemple, rentre totalement pardon, dans ce profil-là. C'est-à-dire que du coup, tu le mets à la place de qui? Est-ce que tu mets à la place de Parham? Est-ce que tu mets à la place de Whitehair? Ou est-ce que tu pars du principe que de toute façon, tu vas l'essayer sur les deux positions, tu vas dans un premier temps l'utiliser dans la rotation, et puis éventuellement, par rapport à la gestion contractuelle de tes trois autres joueurs, il me semble que Whitehair, c'était une signature que d'une saison, hein, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Éventuellement, en effet, tu as la possibilité d'avoir un joueur titulaire immédiatement à l'issue de la saison 2025. Mais c'est plus là où ça m'embête, c'est-à-dire que Brock Bowers, en effet, tu peux l'utiliser dans un système à deux tight ends, en effet, parce que tu l'as dit, il est complémentaire de Michael Mayer. Par contre, si je regarde d'un point de vue un peu brut, et pourtant c'est quand même un secteur où depuis des années et des années, je pense que du côté de Vegas, on appelle de ses voeux pour qu'il y ait un petit peu de renfort là-dessus, je me dis, bah, en fait, tu prends deux linemen offensifs au deuxième et troisième tour, qui techniquement ne devraient pas en tout cas être titulaires dès la saison 2024. Et c'est là où ça m'embête, parce que ce serait le cas d'une autre équipe, limite les Chiefs, on en parlerait, on se dirait, bon, bah voilà, il y a peut-être des choses éventuellement sur lesquelles on peut mettre un pansement, mais d'un côté, tu as cet état de fait. Et de l'autre, tu te dis, bah, et je pense que ça rejoignait un petit peu ta réflexion, running back, on attendait peut-être un petit peu plus sur une position qui pouvait être profonde dans les quatrième et cinquième tours. J'ai rien contre Dylan Lobby, hein, qui a montré une vraie polyvalence du côté de la deuxième division universitaire, mais est-ce qu'il va pouvoir, dès la saison prochaine, disputer des snaps à Alexander Mattison et Zamir White? J'en suis pas convaincu à 100%. Et malgré tout, j'ai rien contre Gardner Minshew, mais voilà. Quarterback et running back, ça restait quand même un mal assez important à prendre en considération du côté de Vegas. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, même s'il y a des joueurs que j'aime beaucoup dans cette draft, je pense qu'un Decameron Richardson peut être une vraie surprise en cornerback. Tommy Eichenberg en bonne doublure de Robert Spillane, je pense que ça peut largement faire le travail. Mais ouais, c'est vraiment les principaux choix, paradoxalement, qui, moi, me laissent un petit peu sur ma faim. Et je aussi entre passable et encouragement. Je te laisse le dernier mot, Jean-Mi, parce que encore une fois, intrinsèquement, il y a des joueurs talentueux. C'est plus sur la logique des choix effectués que moi, je reste un petit peu, on va dire, sceptique sur certains en global.
Oui, c'est ça. Et puis, alors Dylan Lobé, j'aime bien parce qu'il a vraiment cette capacité en réception, donc c'est complémentaire des deux autres. Mais vraiment, voilà, je n'ai pas encore parlé. Où est le quarterback? Où est le quarterback? Voilà, moi j'aime bien Minshew, il est sympathique et puis il n'est pas mauvais. O'Connell, il a montré un petit peu des choses aussi, mais pas que du bon non plus. Mais franchement, j'attendais un quarterback quand même. Même à la limite, un quatrième, un cinquième tour sur Rattler, sur Travis, sur qui tu veux, mais ramenez au moins encore quelqu'un parce que, ouais, où est le quarterback? Donc
On
non,
est là
moi
pour
c'est...
analyser la draft, mais on rappellera
Oui.
qu'ils ont pris Carter Bradley en agent libre hein, de South Alabama. Je ne suis pas convaincu à 100% et je pense que c'est également ton cas.
Oui, si c'est pour un jour faire venir son père en défensif coordinateur, je veux bien, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Non, non,
Je
vraiment.
sais pas s'il joue
Non,
les
moi.
Colts cette saison, mais oui, si Carter
Ah,
joue, en tout cas,
ouais.
il y aura un peu de scouting déjà effectué du côté d'Indianapolis.
Ouais, ça, ouais, allez, ça, on va le prendre comme ça. Allez, pourquoi pas. Bon, les deux premiers choix sont bien, c'est vrai, mais après, bon, écoute. Et je trouve que vraiment, moi, pour moi, il y avait deux positions à besoin. C'était quarterback et c'était cornerback. Et c'est soit pas adressé, soit adressé très tard. Et pour moi, c'est passable. C'est pas
Passable
mauvais,
et ok.
mauvais, mais c'est passable. Ouais.
Ok, bon, on va se mettre d'accord du coup sur cette appréciation-là. On va terminer du coup avec les Los Angeles Chargers. C'était très attendu. Donc la première draft de l'ère Joe Ortiz, Jim Harbaugh avec au premier tour Joe Holt, tackle de Notre-Dame sélectionné. On avait ensuite au deuxième tour Ladd McConkey, receveur de Georgia. Au troisième tour Junior Colston, linebacker de Michigan. Au quatrième tour, Justin Eboigbe, defensive lineman d'Alabama. Tarik Steele, cornerback de Maryland. Et un autre cornerback, Cam Hart, cornerback de Notre-Dame. Ces deux joueurs-là sélectionnés au cinquième tour. En sixième tour, on avait ensuite Kevin Evidol, running back de Troy. Et enfin, au septième tour, Brandon Rice, receveur de USC. Et Cornelius Johnson, receveur de Michigan. Sans trop de surprises, Jean-Mi, on a pas mal d'anciens Wolverines du côté de cette équipe, hein, forcément coaché par Jim Harbaugh en son temps. Quelques joueurs de Notre-Dame aussi, hein, comme quoi la rivalité n'empêche pas l'appréciation des joueurs en question. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'avoue que j'ai un ressenti très positif globalement. Il y avait pas mal de besoins quand même sur des postes assez cruciaux du côté des Chargers. Et je trouve que sans trop se ruiner, bien au contraire, on a fait des choix assez judicieux.
Oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils ont fait une très bonne draft. Ah oui, très bonne draft. Rien que les trois premiers choix, déjà, et ces trois choix très très solides. Bah, enfin, très solides là maintenant. Après, on verra ce que ça donne. Bien sûr,
Ça
des
peut être
fois en NFL,
titulaire
on
dès
a
la
des
saison
surprises.
2024, encore une fois, ouais.
Mais oui, bah, bien sûr, déjà, les trois premiers, ils sont titulaires. Tu vois, tu parlais de la connexion Michigan pour Junior Colston, par exemple, le linebacker. Mais franchement, c'était le deuxième ou troisième meilleur linebacker de la QV, sans problème. Donc, c'est pas juste, il a chopé son gars parce qu'il connaît. Non, c'est un super linebacker et c'était une position à besoin. Ladd McConkey, le receveur, moi, j'adore, j'adore. Je pense que, par exemple, ça aurait été un meilleur choix pour les Chiefs que Xavier Worthy. Mais ça, c'est juste mon avis. Donc, ils le prennent au 34. C'est extraordinaire. Donc, Alton en a parlé. Ensuite, il manquait un petit peu en defensive tackle. Ben, et Bogby, non, c'est pas un monstre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là au quatrième tour. Mais il vient quand même d'Alabama. Il a montré un jeu plutôt complet. Alors, il doit se développer, mais il a montré quand même des choses. Ça renforce un petit peu ce secteur. Je pensais que peut-être ils iraient sur le poste de corner un peu plus tôt. Bon, finalement, ils y vont au septième tour, cinquième tour. Mais ils doublent le poste, notamment avec Cam Hart, qui a une taille intéressante. J'aime beaucoup le running back Kimani Vidal. Au septième tour, choper deux receveurs comme Rice et Johnson, qui ont de la taille, qui sont dynamiques, notamment Johnson, ben c'est très intéressant aussi. Pour deux choix de septième tour, c'est vraiment bien. Donc, ah ouais, non, ils ont fait une draft. Moi, elle me plaît beaucoup.
Oui, même les cornerbacks. Alors, c'est vrai qu'ils avaient signé quelques joueurs. Je pense à. Il y avait Christian Fulton et il me semble qu'il y en avait un autre en fin de free agency. Mais en tout cas, les deux corners qui vont chercher au cinquième tour, en plus, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ces deux profils qui peuvent être assez complémentaires. Tarik Steele, c'est vraiment un joueur assez longiligne qui joue sur l'extérieur et qui peut être un vrai playmaker, un vrai voleur de ballon. Et Cam Hart, il y a vraiment le côté extrêmement physique, capable de jouer sur l'extérieur et sur le poste de nickelback. Donc vraiment, ça c'est très intéressant quand tu es malgré tout dans une division, bah, déjà forcément la division de Patrick Mahomes, et puis voilà, une division où il faut quand même t'attendre à ce que tu croises quand même quelques receveurs assez sympas. Donc renforcer ce secteur-là, c'est clairement pas une mauvaise chose. Et je te rejoins sur Justin Ebouigbe. Moi, pour moi, en effet, aussi parce que la ligne défensive n'était pas forcément transcendante au début de cette draft, on peut facilement avoir 4 à 5 titulaires dès la saison 2024 dans ce pôle-là. Et c'est là, encore une fois, pour moi, c'est compliqué de me dire que bah, les Chargers sont pas meilleurs après la draft qu'avant. Et c'est pour ça que moi, j'ai aucun souci à me dire que bah, on peut mettre les félicitations aux Chargers sur ce qui a été fait en global, quoi.
Ah oui, tu vois, moi j'allais mettre compliment, donc juste en dessous, mais oui, on peut peut-être même aller jusqu'à félicitations, oui, c'est possible, oui.
Bon, très bien. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Donc, je rappelle, globalement, on était sur des encouragements pour les Denver Broncos et pour les Kansas City Chiefs, impassables pour les Las Vegas Raiders. Donc, félicitations pour les Los Angeles Chargers. Je te remercie en tout cas, Jean-Mi, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour aborder une autre division de conférence américaine, puisqu'on abordera notamment la FC Sud. À très vite, donc, à l'écoute de Touchdown Actu.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.